rise, some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon.
Le fameux discours de la nouvelle frontière de John Fitzgerald Kennedy pour ouvrir cette semaine pendant laquelle nous allons explorer les frontières du savoir avec chaque jour des invités qui tentent de penser des champs nouveaux ou de repenser des questions anciennes, de l'urbanisme à l'introduction des études de genre en histoire de l'art, de l'évolution du tourisme à l'émergence d'un tout nouveau champ de recherche parfaitement adapté en cette période de fête, les food studies ou l'étude du fait alimentaire. Pour commencer, puisqu'il s'agit de parler d'exploration et de frontières, penchons-nous sur ce qui est probablement l'un des grands paradoxes de notre temps. D'un côté, le désir d'explorer qui fait de la mer et de l'espace un nouvel inconnu à découvrir, mais dans le même temps, nous prenons bien conscience de l'importance de tracer de nouvelles limites. On en parle avec la géographe Magali Reghezza. Bonjour.
Bonjour.
Vos travaux portent sur les risques naturels d'adaptation à l'incertitude et montrent comment une nouvelle géographie est en train de se dessiner. Vous avez participé récemment à un numéro de la très belle revue Relief consacrée justement aux océans, à la mer. La précédente était, ou c'était encore le numéro d'avant, je crois, qui était sur l'espace, avec un article dans cette scie intitulé « La mer, ce nouveau territoire ». On va en parler car la mer comme territoire, comme terra incognita, évidemment, ça paraît un peu étrange. Mais pour discuter avec vous, je vous présente Christophe Bonneuil. Enfin, vous le connaissez. Bonjour. Christophe Bonneuil. Vous êtes historien des sciences et vos travaux portent notamment sur la question des représentations de la nature, le rapport au vivant et sur la notion justement de progrès. Alors vous, votre domaine de prédilection, c'est plutôt l'époque du 19e siècle. Mais bon, vous allez pouvoir nous aider à tirer des traits jusqu'à aujourd'hui puisque vous êtes aussi le directeur d'une collection désormais fameuse aux éditions du Seuil, la collection Anthropocène, qui veut justement donner à ce terme très discuté une certaine épaisseur scientifique. D'ailleurs, en quelques mots, Christophe Bonneuil, définissons l'Anthropocène pour nos auditeurs.
Alors, l'Anthropocène a été proposé par des scientifiques, géologues, spécialistes de la chimie de l'atmosphère, climatologues, pour dire qu'on est sorti de l'Holocène.
Donc une période géologique.
Donc la période géologique des 12 000 dernières années depuis la dernière glaciation. Et la proposition est en cours de discussion dans les organisations géologiques internationales. Et ça consiste à dire qu'on sort des paramètres qui étaient ceux des 12 000 dernières années en ce qui concerne le cycle du carbone, la hauteur des océans, le cycle de l'azote, l'érosion de la biodiversité, et que on est en train de basculer vers un nouvel état de la planète qui, pour l'espèce humaine, pose des problèmes d'habitabilité potentiellement.
Et qui aussi pose la question de la responsabilité de l'espèce humaine, évidemment, dans cette évolution. Et alors justement, parlons-en avec vous, Magali Reghezza, non pas directement de l'Anthropocène tout de suite, mais d'une question fondamentale, c'est-à-dire celle finalement de ce qui fait, de ce qui fait de nous presque l'humanité, les humains, cette curiosité qui nous pousse à explorer et qui nous pousse à tracer des frontières, qui nous pousse à comprendre notre géographie. Faut-il désormais se méfier, selon vous, de ce désir d'explorer, de repousser les frontières finalement?
Alors il a toujours été présent, historiquement, alors là Christophe en parlerait mieux que moi, mais on voit cette diffusion progressive de l'humanité, cette conquête qui s'accompagne souvent de colonisation, donc avec toute la violence que ça impose, avec tous les débats aujourd'hui que ça pose, et donc cette question effectivement de la transformation de l'espace terrestre en un territoire, ce que nous géographes on appelle un territoire, c'est-à-dire un espace qui est à la fois approprié politiquement, donc par un pouvoir, mais aussi symboliquement, avec cet attachement, cette identité qui se construit de façon très complexe entre l'espace dans lequel on habite, et puis l'individu, et puis le collectif dans lequel l'individu évolue. Bah, tout ça, c'est un processus qui intéresse énormément la géographie, parce que précisément, il conduit à comprendre en fait comment cet espace terrestre, cette surface terrestre, elle est habitée. Et derrière, effectivement, il y a cette logique de la frontière avec ces deux dimensions de la frontière, qui est d'une part cette ligne juridique qu'on trace, alors qui est très moderne, hein, qui est très récente, mais qu'on trace pour circonscrire sa souveraineté, pour exercer son pouvoir. Et cette frontière, elle impose d'emblée une contrainte, une violence sur les corps, puisque quand vous traversez la frontière, eh bien vous avez ce contrôle. Et puis c'est aussi la frontière qu'on repousse. C'est le méridien de Tordesillas, c'est fronts pionniers, ce qu'on appelle les fronts pionniers, c'est-à-dire à chaque fois repousser un petit peu plus loin, encore et toujours. Et donc évidemment aujourd'hui,
j'allais vous poser la question, quels sont les nouveaux fronts pionniers, Magali Reghezza?
Il y en a plusieurs. Il y en a un qui nous intéresse beaucoup, ce sont les océans. Ce sont les océans, parce que précisément, c'est un peu compliqué, les océans, ce sont des masses d'eau, c'est pas de la terre. Et comme pour le climat, on a enfin, et c'est récent, hein, une pensée globale, c'est-à-dire une pensée à l'échelle planétaire, dans la complexité, dans le système des océans. Donc cet océan global, cet océan mondial, qu'on connaît, nous, à travers les circulations de la mondialisation, ces flux aujourd'hui de personnes, de biens qui transitent par ces océans. Et aujourd'hui, en fait, les océans sont une nouvelle frontière, parce que précisément, les océans ne sont pas habitables comme la majorité des milieux de la surface terrestre. Autant, quand vous êtes sur les continents, sur la terre ferme, ça peut être compliqué, ça a un coût d'habiter ces milieux, mais on arrive à s'en sortir plus ou moins. Autant les océans, on est quand même aux limites des possibilités humaines, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons pas vivre sous l'eau, sauf dans certaines conditions.
Peut-être les sur l'eau, on en a.
Alors sous l'eau, sur l'eau, etc. Tout ça, c'est des enjeux majeurs qui ont des dimensions géopolitiques fortes, puisqu'on voit aujourd'hui d'une part les conflits qui se cristallisent. Je pense à l'Arctique, je pense à certaines zones marines qui sont aujourd'hui l'objet de vives tensions. Et puis cette question des océans qui nous est revenue par la petite porte, mais qui va être la grande fenêtre du futur, c'est à travers le changement climatique, puisque l'accord de Paris parle enfin de la question des océans dans le changement global.
Et on va en discuter au cours de cette émission, mais Christophe Bonnet, je voulais vous entendre quand même un petit peu sur cette notion d'exploration. Qu'est-ce que l'historien a à nous en dire? C'est presque constitutif de l'histoire de l'humanité. Je pense récemment à un livre de Jean-Paul Demoule sur ces 10 000 ans oubliés, c'est-à-dire l'époque justement d'avant l'Anthropocène, cette époque qui remonte à 12 000 ans, où voilà, les migrations des hommes ont constitué finalement la paysannerie, occuper l'espace, mais aujourd'hui on est dans une autre époque, ça vous l'avez dit. Alors c'est quoi cette exploration? C'est quelque chose dont il faut se méfier, qu'il faut saluer, puisque ça a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui?
Peut-être qu'on est en train de... On a beaucoup exploré la Terre en extension, et on est en train de la redécouvrir en intensité, c'est-à-dire que d'une certaine façon, l'idée qu'on vit dans un monde fini, elle est déjà très présente autour de 1900. Le géographe Jean Brune parle d'une modeste cage pour définir la Terre. On pense qu'on a fait le tour de toutes les découvertes. On est allé au pôle Nord en 1909, au pôle Sud en 1911. Et il y a le sentiment qu'on vit dans un monde fini. C'est le discours de la fin de la frontière aux États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est la sensation qu'on a touché les limites de la planète, avec déjà beaucoup de préoccupations sur est-ce qu'il y a assez de place, étant donné le dynamisme démographique de l'Europe. On se demande s'il faut pas coloniser les nouveaux territoires tropicaux qui sont sous-utilisés par leurs habitants indigènes, selon les théoriciens de l'idéologie coloniale de l'époque. Et donc on va légitimer la colonisation à travers l'idée que les Européens armés par la science sauront mieux exploiter ces territoires d'une façon plus efficace et plus durable. Et donc les puissances coloniales s'arrogent à ce moment-là le droit de dire quel est le bon usage de la planète. Et dans un moment où la finitude est perçue, et ça va aboutir à la notion d'espace vital chez Ratzel, à la notion de géopolitique qui est inventée au tout début des années 1900, aux grandes guerres catastrophiques du XXe siècle. Et donc finalement, ce moment où on a touché la limite a été relativement catastrophique dans l'histoire. On a malgré tout poursuivi en colonisant le sous-sol avec l'âge du pétrole et l'atmosphère avec les émissions de dioxyde de carbone. Et donc le XXe siècle a permis de poursuivre des processus d'expansion grâce à la lithosphère et à l'atmosphère. Et on redécouvre en intensité cette fois-ci la Terre dans ses interactions, dans les mille boucles de rétroaction qui nous lient. On s'est aperçu que par exemple aux États-Unis, il y a 20 fois plus de séismes qu'il y a 30 ans, parce que on fait de la fracturation des gaz de schiste. Et donc on redécouvre que il y a des effets inattendus de l'agir humain, que même le volcanisme, qu'on pensait être un phénomène purement naturel, est influencé par les activités humaines. Avec le réchauffement climatique, la masse des pôles diminue, ça change la pression sur la Terre, et le volcanisme est en train d'évoluer. Donc on découvre finalement de nouvelles puissances d'agir à travers la planète Terre qu'on n'avait pas découvert jusqu'à présent, qui nous contraignent, qui nous oblige à réfléchir de nouveaux modes de vie.
C'est vrai que les séismes et l'éruption des volcans, on pensait qu'on y était pour rien. On avait commencé à comprendre qu'on était pour quelque chose dans le réchauffement climatique, dans la couche d'ozone, etc. Mais là, on découvre la force presque tellurique finalement de l'activité humaine, Magali Regezza. Mais pour continuer sur cette notion de finitude de la planète, on a l'impression que finalement, il y a aussi une volonté toujours de leur pousser. C'est ce que vous expliquiez là, avec la mer. On peut le penser aussi à l'espace. On entendait ce discours de John Fitzgerald Kennedy sur la nouvelle frontière. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on touche une limite, eh ben on la repousse. C'est quoi ? C'est l'idée de progrès finalement qui l'emporte toujours ?
Alors, je ne sais pas si c'est l'idée de progrès. En tout cas, c'est vu et c'est présenté comme un progrès. Et de fait, par exemple, quand on regarde aujourd'hui les océans, ils ne sont pas du tout vierges. Quand on voit le nombre de câbles, de tubes et tout ce qui se passe en dessous, il y a déjà pas mal de choses dans les océans. Alors, je ne parle même pas de ce qu'il y a dans l'atmosphère et même dans l'espace. Hein. On a aujourd'hui quand même quelques problèmes avec les débris qui croisent. Voilà. Donc, c'est des questions qui sont des questions très problématiques. Et je rejoins ce que dit Christophe. Je pense qu'en fait, il y a deux façons de voir la finitude. Il y a d'un côté une finitude qui s'accompagne d'une espèce d'hubris humaine qui est en gros la finitude, c'est l'infini. J'ai des collègues géographes qui ont montré qu'aujourd'hui, on peut en 48 heures faire le tour de la planète. Aller n'importe où en prenant il faut prendre plusieurs moyens de transport, hein, mais on peut, c'est quelque chose de fou. 48 heures, c'est rien du tout. Donc il y a cette espèce de surpuissance, et au moment même où on découvre cette surpuissance, on se rend compte aussi qu'elle est, et bien, que la modernité se réfléchit et que nous sommes au contraire extrêmement fragiles face à ça, et que justement du fait de ces rétroactions, nous sommes les victimes in fine de cette surpuissance. Et que c'est tout bête, hein, c'est les doubles faces du progrès, la face obscure de ce progrès. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très marqué par ce double discours. C'est-à-dire, on regarde d'un côté vers l'espace. Et quand on voit ce qu'on, voilà, on a vu pour la première fois Pluton. On a posé un petit machin sur une comète. On se balade sur Mars, on a des photos de Mars. Aujourd'hui, moi, j'ai des collègues qui travaillent sur une géographie. Alors, est-ce qu'il faut l'appeler géographie, mais de Mars. Et on pense aujourd'hui à envoyer, alors d'ailleurs avec tous les problèmes de colonisation que ça peut poser, des hommes et des femmes sur Mars. Donc on a ça d'un côté. Et de l'autre côté, notre propre planète connaît quand même quelques soucis. À cause justement de nos activités.
Mais alors, est-ce que Christophe Bonneuil, dans cette situation que vous décrivez tous les deux depuis le début de l'émission, l'exploration au sens scientifique du terme n'est pas plus nécessaire que jamais? Je pense par exemple, je ne sais pas, à la mission scientifique Tara, ce bateau qui nous a permis une meilleure connaissance des océans, à l'exploration colonisatrice. Est-ce qu'on pourrait opposer l'exploration scientifique?
Oui, mais elle commence au pied de la porte. La réexploration des territoires que nous habitons, c'est une question de géographie. On a souvent défini depuis le traité de Westphalie au XVIIe siècle les États-nations comme une coïncidence, un alignement entre un État, une population et un territoire bien borné. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que nous, par notre mode de vie, nous provoquons des flux de matière et d'énergie qui dépassent ces territoires. Une action géologique sur l'ensemble de la planète, des flux de matière, du sable pour la construction, des énergies fossiles, le dioxyde de carbone qui s'échappe, les déchets de nos téléphones portables qui partent aux Philippines, et de même avec Internet ou avec les flux de la mondialisation, finalement il y a des nouveaux territoires qui se dessinent, qui ne sont pas alignés ni sur des populations, les populations bougent, ni sur les dispositifs étatiques, et c'est toutes ces circulations et ces réseaux qui restent à comprendre, à étudier, y compris à poser des nouvelles questions politiques.
Mais est-ce que exploration va nécessairement avec extraction? Parce que c'est un peu le sens de votre propos, Christophe Bonnet, c'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement aujourd'hui, toute exploration mène à l'extraction, l'exploitation des ressources.
Alors ça renvoie à la question de est-ce qu'on peut connaître les choses sans intervenir sur elles ? Effectivement, on est soit dans une science baconienne où on connaît les choses en les perturbant, en intervenant, et Bacon disait qu'il fallait violer la nature comme on viole une femme pour la découvrir au XVIIe siècle, donc une dimension très violente de cette exploration scientifique, et il y a d'autres pratiques de connaissance qui consistent à essayer de tourner autour, de connaître sans toucher, sans perturber, sous une forme beaucoup plus disons joyeuse, et peut-être que ce sont ces modes de connaissance qui sont à privilégier.
Magali Regueza, cette circulation dont nous parle Christophe Bonneuil et cette nécessité aussi peut-être de repenser la façon dont on analyse, dont on étudie, dont on explore même scientifiquement notre environnement, c'est quelque chose qui est très récent, qui a un impact par exemple chez les géographes.
Non, on l'étudie beaucoup à travers la question de la mondialisation et de ses impacts. La mondialisation, et ça rejoint à nouveau ces questions de compréhension de la planète, c'est non seulement la prise de conscience de l'unité du monde et du fait que la surface terrestre est une, qu'il existe aujourd'hui un monde qui coïncide avec la planète, et ça c'est... Avant on avait des mondes, on avait le monde grec, le monde romain, etc. Aujourd'hui on a un monde, et c'est effectivement ces circulations. Et ces circulations, elles remettent en question la frontière. Et là je pense que l'idée de frontière, elle est importante. Je reviens aux travaux d'une de mes collègues qui s'appelle Juliette Faul et qui a écrit plusieurs choses là-dessus. Elle dit très bien, qu'est-ce que c'est que la frontière ? C'est une ligne qui est réifié, naturalisé et fétichisé. C'est-à-dire que on trace la ligne, on nous explique qu'elle est naturelle, parce qu'elle est forcément naturelle, vu qu'elle passe soit sur un fleuve, soit sur une montagne. La preuve en est, c'est que les frontières, on les connaît tous en Europe, elles sont très très naturelles, elles n'ont jamais bougé, et on la fétichise. Et donc, les peuples, ils sont forcément dans le cadre des beaux découpages qu'on a fait. Et évidemment, ça marche pas. Et ce que nous montre la mondialisation, c'est que justement aujourd'hui, c'est ce caractère transnational. Dans le global, en fait, le global, c'est le trans. C'est ce fait de passer, de circuler. Alors ça ne veut pas dire que les frontières, elles n'existent plus. Parce que malheureusement, les frontières, elles existent encore et elles enferment beaucoup de personnes. Et toute la question des migrants, des réfugiés et de ces déplacements de population qui sont précisément aujourd'hui liés aussi à des problèmes environnementaux, elles sont présentes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a ces figures du déplacement par les frontières et que les hommes se déplacent. Et que ça remet en question le sens de la frontière, cette fétichisation dans nos sociétés, aussi bien de la frontière terrestre qui est un construit social, que des différentes frontières qui nous animent dans nos sociétés.
Mais alors, Magali Regueza, est-ce que la mer peut vraiment être considérée à ce titre-là comme un territoire ? Puisque finalement, le découpage et l'appropriation de la mer, ça paraît, et la découverte de limites naturelles paraissent bien difficiles.
On n'imagine pas le nombre de limites qu'il y a sur cette mer. Quand je dois l'enseigner aux étudiants, ça me donne des sueurs froides, parce que je me porte toujours dans les limites entre les zones exclusives économiques, les zones... Ça fait l'objet de tas de conflits, de contentieux internationaux. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est la haute mer. Parce que juridiquement, la haute mer, c'est justement ce qui n'appartient à personne ou à tout le monde. Et c'est là-dessus que portent aussi des conflits, parce que typiquement, comment vous protégez quelque chose qui appartient à tout le monde et qui appartient à personne ? La seule façon qu'on a trouvé de protéger, c'est de territorialiser, c'est-à-dire de tracer des périmètres. Et un pouvoir s'exerce sur ce périmètre et dit « je protège et j'impose ma vision de la protection ». Donc les océans sont difficiles à protéger, on le voit avec les mesures notamment qu'avait pris Barack Obama à la fin de son mandat sur la délimitation de ces grandes aires marines protégées. Ce sont aussi des périmètres sur la mer. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de territoire ou de territorialisation de la mer ? Parce que d'une part effectivement on a ces questions de frontières et d'autre part aujourd'hui on a ce sentiment très fort d'appropriation des sociétés. On va de plus en plus sur la mer. Au moins sur, voire sous la mer. Et donc, on a aujourd'hui un rapport aux océans qui est en train de se transformer. Qui est en train de se transformer en particulier parce que les connaissances progressent et que justement, on envoie des choses sous la mer pour voir ce qui se passe. On a à chaque fois des images absolument époustouflantes de la faune, de la flore, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de territoire. Alors j'ai des collègues qui parlent plutôt de méritoire, pour aussi montrer cette dimension ambivalente. Mais c'est voilà l'idée de cette appropriation, et qui pose, je le répète, des problèmes majeurs, parce que derrière, il y a des conflits, et des conflits à une frontière, ça fait des morts à la fin.
Ça rappelle quand même d'autres moments de l'histoire, ce lien entre politique, exploration, appropriation. Vous l'avez dit à propos de, évidemment, de la colonisation. Mais finalement, à quel imaginaire ça nous renvoie tout ça? À quel imaginaire du progrès, de la science et peut-être même de l'exploration, selon vous, ce rapport qu'on a aujourd'hui, cette nécessité absolue de territorialiser même un espace qui paraît si peu territorial?
Je ne sais pas, il y a peut-être dans l'exploration un habillage de l'expansion et de la conquête sous une vitrine cognitive. À la fin du 19e siècle, les récits d'exploration sont un genre littéraire très populaire qui participe à la légitimation de l'expansion coloniale. On passe en gros d'une terre à 35% occupée par ou gouvernée par des puissances européennes à 85% en 1900. Il n'y a jamais eu un partage du monde aussi fort et brutal depuis 1494, le traité de Tordesillas. Et c'est à ce moment-là qu'on a Jules Verne, qu'on a une littérature de l'exploration, qu'on a une valorisation de la figure courageuse de l'explorateur occidental, au moment où les populations occidentales vivent une vie de plus en plus routinière dans les villes. On va se mettre à valoriser le courage, etc. C'est une façon aussi de se rassurer sur qui nous sommes, nous les occidentaux, que d'aller de cette façon vers l'extérieur. Or, il me semble qu'aujourd'hui, qui sont les explorateurs? Qui sont ceux qui prennent le plus de risques dans le monde? C'est le plus souvent des migrants qui fuient leur pays, qui doivent vivre des dangers incroyables pour essayer d'arriver jusqu'à chez nous. Certains meurent. Et il y avait une très belle pièce de théâtre de Ariane Mouchkine qui racontait ça, qui finalement donnait un statut d'Ulysse à ces héros ordinaires que sont les migrants. Et cette pièce s'appelait « Le dernier caravansérail ». Et c'était une façon de valoriser la dimension hautement aventurière qui est vécue par toutes ces personnes ordinaires qui ne sont pas des Européens. Et ce retournement, je le trouve très intéressant.
Nos invités sont l'historien Christophe Bonneuil et la géographe Magali Regueza pour poser cette question des nouvelles frontières, comme l'avait fait John Fitzgerald Kennedy, en ce début de semaine consacré aux explorateurs.
La grande table, Raphaël Bourgois.
La finitude terrestre, il faut l'historiciser, c'est-à-dire il faut la voir déjà avec l'histoire de l'exploration. Il faut commencer peut-être avec l'histoire de l'Antarctique, l'exploration de l'Antarctique, la dernière terre explorée, en quelque sorte la géographie horizontale finie, bien sûr entre guillemets, parce que c'est jamais fini, et c'était posé comme en tant que tel, et il fallait passer à des géographies verticales, et c'est ça, les fonds océaniques et l'air et l'espace. Et c'est en quelque sorte ce mouvement-là qui nous a renouvelé cette finitude terrestre, encore une fois avec les images spatiales. C'est parce que alors le monde fermé, le monde clos de la fin du 19e siècle, quand on avait pratiquement tout exploré, c'est un autre monde clos que celui de la bombe nucléaire, du voyage dans l'espace, parce que les menaces qui pèsent sur la planète depuis la guerre froide sont beaucoup plus graves, évidemment.
Voilà, on entendait Sébastien Vincent Grefsmühl, Christophe Bonneuil, c'est un auteur que vous avez publié à l'Anthropocène, un livre qui s'appelle « La Terre vue d'en haut, l'invention de l'environnement global ». On l'entendait là au micro de Caroline Breu en 2014. Alors cette idée de monde clos et d'univers infini, cette tension entre les deux, ça renvoie à cet imaginaire aussi que vous nous décriviez avant qu'on écoute Sébastien Grefsmühl.
Oui, tout à fait.
Vous pourriez nous en dire un mot? En quoi ça pourrait éclairer notre émission d'aujourd'hui sur l'exploration?
Oui, alors au XVIe siècle, on avait une conception de la Terre comme un tout à travers la figure du globe ou à travers l'idée que la Terre était un alambic. va apparaître au XXe siècle la figure du vaisseau spatial pour montrer la finitude et l'idée que cette Terre forme un tout. Et même avant les premières photos par satellite de la Terre, si vous regardez l'édition de L'Homme et la Terre d'Élisée Reclus, le grand géographe autour de 1900, on voit une figure d'un homme qui regarde la Terre comme s'il était sur la Lune. Il est assis sur une fenêtre et il regarde la Terre de l'extérieur. Il y a déjà dans la fiction littéraire, dans la science-fiction de cette époque, ce déplacement du regard comme si on pouvait regarder la Terre de l'extérieur, depuis le ciel, depuis la Lune. Donc l'expérience de pensée a été faite bien avant qu'on puisse avoir matériellement les photos de la Terre depuis des images satellites.
Finalement, Magali Reghezza regardait la Terre depuis l'extérieur. Est-ce que c'est le travail du géographe ou j'interprète mal, ou vous diriez que c'est exactement l'inverse, justement?
Ah, moi, j'adore. En tout cas, je fais ça. Après, je ne sais pas si on considérera que c'est un travail de géographe, mais effectivement, je trouve que... Alors, elle est intéressante. Je reviens juste sur Sébastien Grefsmühl et l'image du vaisseau, parce que justement, ce qui montre... Enfin, je parle sous contrôle, mais il me semble que ce qui montre, justement, c'est qu'au départ, c'est le vaisseau spatial Terre, c'est le vaisseau qui va nous permettre d'aller conquérir au-delà, d'aller sortir de la Terre, et on veut reproduire dans ce vaisseau les conditions de la Terre. Et puis il y a un renversement de cette image, et finalement c'est la Terre elle-même qui devient le vaisseau dans lequel on est enfermé, et dont il est très difficile de s'échapper. Et je trouve que ce renversement, il est intéressant, parce que finalement, le fait de voir la Terre depuis l'espace, c'est quelque chose qui semble aujourd'hui tellement évident, tellement simple. Moi, je demande toujours aux étudiants, d'après vous, depuis quand on la voit comme ça? Et alors, ils me disent, années 50, machin. Quand on leur dit, c'est 72, la première vue globale, et la deuxième, c'est 2015, vue globale, ça veut dire que c'est la première fois où un satellite permet de prendre une photographie de la Terre dans son ensemble. Le reste du temps, c'était des images qui étaient composites. Donc, on assemblait, comme un puzzle, des images de la Terre. C'est quelque chose qui est d'abord une prouesse technologique, qui renvoie à l'arrachement de l'homme de cette planète, ou en tout cas d'un satellite, d'un artefact humain. Et donc ça, c'est très intéressant, et de voir que certes, on peut en sortir, mais on pourra pas tous en sortir, et en tout cas pas tout de suite. Et donc c'est vrai que cette image de l'enfermement, elle est problématique, parce qu'aujourd'hui, elle accompagne finalement ce sentiment d'angoisse qui fait que l'exploration prend aussi cet imaginaire qui nous permet de sortir et de nous rassurer, et qui accompagne aussi une fuite en avant technologique, c'est-à-dire l'idée que finalement la technique va encore et toujours nous sauver, au lieu peut-être d'accompagner une régulation de nos comportements vis-à-vis de notre habitat.
Et Sébastien Vincent Grefsmühl parle aussi d'exploration verticale. On serait passé d'une exploration horizontale à une exploration verticale. Il parle des fonds marins et de l'espace, un peu comme un trait, une tour verticale qui définirait nos nouveaux champs d'exploration. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Magali Reghezza? Il est question des fonds marins, notamment dans un article de Gilles Boeuf dans cette revue Relief. C'est aussi ces fameux fonds marins. On les connaît très peu, très mal.
On les connaît très très peu. La carte, alors qu'on a tous en tête, qu'on avait à l'école des fonds marins avec les failles, etc., c'est 77. Donc c'était hier, c'était il y a 40 ans. C'est rien du tout. Et aujourd'hui, tout le monde trouve ça absolument normal. On a toujours connu les plaques, etc. C'est devenu c'est dans les manuels. Enfin, c'est très récent. Et effectivement, cette image en 3D du monde, retrouver la verticalité, c'est quelque chose qui n'était pas évident, parce qu'effectivement, on a le nez dans la carte, nous, en tant que géographes. Et la carte, elle est en deux dimensions. Alors, on a des courbes de niveau qui nous permettent de nous abstraire des deux dimensions. Mais c'est vrai que de passer de la 2D à la verticalité, et ça change complètement notre rapport à l'espace. Parce que quand vous êtes dans la verticalité, eh bien, vous avez le corps qui est dans la verticalité. Donc, il y a plus simplement le regard, il y a ce que vous sentez, ce que vous goûtez, ce que vous entendez. Donc, on est vraiment dans une expérience sensible, une exploration sensible de son environnement. Et donc, c'est un changement, là aussi, très important, et qui est accompagné aujourd'hui par de nombreuses techniques, pour le coup. Je pense à tout ce qui est le radar, le sonar, tout ce qui est le modèle numérique de terrain en 3D, par exemple. On arrive aujourd'hui à avoir vraiment des outils qui nous permettent de voir là où on ne voyait pas jusque-là.
On a parlé, Christophe Bonneuil, de cette nouvelle réalité finalement géostratégique autour des enjeux maritimes, avec le réchauffement climatique, ou le changement climatique, je sais jamais comment il faut dire. On parle de la piraterie, on parle évidemment de la fonte des glaces qui crée des nouvelles routes et des lieux d'exploration de forage pour des nouvelles ressources naturelles. Vous avez publié récemment d'ailleurs un livre de Jean-Michel Valentin, Géopolitique d'une planète déréglée au seuil. Voilà, c'est aussi ces questions-là qui sont devant nous. L'anthropocène Anthropocène contient finalement ce fort potentiel de violence, c'est-à-dire qui était celui contenu dans l'exploration et comment dire dans la conquête telle que vous l'avez décrite tout à l'heure. Aujourd'hui, elle prend peut-être une nouvelle nature, mais c'est aussi ça qui est devant nous.
Oui, l'Anthropocène, c'est un nouvel état de la planète, mais ce nouvel état de la planète déplace les rapports de puissance entre les territoires, entre les groupes sociaux. Et de même que le canal de Suez avait fait de l'Asie l'arrière-cour de l'Europe à la fin du 19e siècle, le réchauffement de l'Arctique est un enjeu majeur pour la Chine, parce que ça ouvre une nouvelle route, et il y a énormément d'investissements chinois dans les ports au bord de l'Arctique en Russie, des partenariats chino-russes pour installer des ports et ouvrir une route qui mettra l'océan Atlantique comme arrière-cour de la Chine pour les grands cargos. On gagnera 3 semaines de temps pour aller de Shanghai à Rotterdam.
Ce qui n'est pas rien, évidemment.
Par le canal de Suez. Voilà.
Magali Rigazet, on connaît cette phrase du géographe Yves Lacoste, la géographie, ça sert à faire la guerre. Alors est-ce que là, en l'occurrence, cette nouvelle géographie qui se dessine notamment, par exemple, dans l'Arctique, comme vient de le dire Christophe Bonneuil, c'est aussi ce qui se dessine finalement, cette volonté de souveraineté, de poser des souverainetés sur des espaces qui jusque-là étaient tout à fait inexplorés?
Alors d'abord, je pense que sur l'Arctique, c'est le changement climatique et les changements environnementaux ne font qu'accompagner un glissement des centralités géopolitiques qui quand même, voilà, certes on est en Europe et on voit le monde depuis l'Europe, mais enfin aujourd'hui ça se passe quand même beaucoup dans le Pacifique, et les puissances qui s'affrontent en Arctique, ce sont aussi ces puissances émergentes ou réémergentes, la Russie, la Chine, etc. Moi je suis d'accord avec Christophe, je pense que l'Anthropocène et que les changements à venir, ils indurent en réalité des rapports de domination et de pouvoir, ils les renouvellent peut-être, mais ils les indurent surtout à l'échelle internationale, parce qu'on voit très bien dans les négociations climatiques que ceux qui jouent ce sont les rapports asymétriques. Et puis ce dont on parle moins, mais ce sont aux échelles infranationales, aux échelles des populations, c'est une réactualisation et une remotivation des inégalités de toute nature, où en fait, en bout de chaîne, c'est toujours sur les mêmes que ça pèse, à savoir les plus pauvres, les plus démunis, les moins développés, les plus à l'écart du pouvoir. Donc en fait, ces jeux de pouvoir, ils existent. Et c'est vrai que finalement, cette idée d'anthropocène et cette question de la planète tente à naturaliser et à donner une évidence naturelle à des choses qui sont d'abord politiques et à invisibiliser ces rapports politiques. Ce n'est pas parce que la nature ou la protection de la nature peut paraître a priori consensuelle qu'en réalité elle n'est pas politique. Elle est éminemment et essentiellement politique et géopolitique. Et donc dans ces conditions, toutes ces questions de nature, de rapport à la planète, etc., font peut-être même avant tout jouer des histoires de domination, de rapports de force et d'asymétrie de rapports de force. Et le consensus actuel, dont on voit bien d'ailleurs qui tient pas longtemps, tente à invisibiliser ces rapports de domination qui vont s'exercer de plus en plus fortement parce que justement les enjeux sont absolument majeurs quand on voit l'Arctique, mais quand on voit aussi l'exploitation des schistes. Enfin, il y a derrière des enjeux économiques et politiques absolument fondamentaux. Et donc derrière, évidemment, ce sont des histoires politiques et des enjeux idéologiques forts. Et je pense aux travaux de certains collègues de Christophe sur l'environnementalisme libéral, par exemple, qui montrent comment derrière aujourd'hui ces injonctions à la protection, à la résilience, à l'adaptation, etc., masquent derrière des discours très fortement idéologiques.
Christophe Bonneuil, il y a des nouveaux champs qui s'ouvrent et sur lesquels il faut être particulièrement vigilant, comme vient de le dire Magali Rigazet.
Oui, je pense que le défi que posent les mutations environnementales et géologiques qui sont en cours, ça pose des défis à la pensée, aux sciences humaines et sociales, à la façon dont on a pensé la démocratie, dont on a pensé le politique, dont on a pensé la solidarité et la question de l'égalité même. On les a pensés d'une façon relativement idéaliste, finalement, depuis 3-4 siècles, sans prendre en compte les matérialités qui les soutiennent. Et effectivement, si on veut penser aussi bien les compromis politiques que la question de l'égalité, on doit aujourd'hui prendre en compte les dimensions de flux de matière, d'énergie, de consommation d'espace, d'hectares fantômes. Et aujourd'hui, c'est dans la suite du travail de Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe siècle. Il a montré que si on est riche dans un pays riche, on va émettre 1000 fois plus de dioxyde de carbone que si on est pauvre dans un pays pauvre. Et donc il y a également une dimension écologique dans la question des inégalités sociales qui est très forte.
Et on se quitte sur My Poséidon de Sébastien Telly. Merci beaucoup Christophe Bonneuil et Magali Reguezza d'avoir ouvert cette semaine sur les explorateurs, l'exploration. On va continuer d'en parler évidemment. Il me reste à remercier toute l'équipe de La Grande Table, Camille Ferret, Clémence Marie, Henri Leblanc, Chloé Leblon, Julien Rosa, Copelia Ménardi, Maxime Morin et Bertil Bourdon. À la réalisation aujourd'hui, c'était Charlotte Roux et Lise Combe. À la technique, Inès De Bruyne.